plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Marcello, come here. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Qu'est-ce qu'une mère ou un père peut tolérer, accepter, accueillir d'un enfant qui dévie de la route de ses valeurs? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Voilà des questions que l'on se pose en voyant le film Jouer avec le feu. Un père qui élève seul deux grands garçons se retrouve démuni lorsqu'il constate que son aîné de 22 ans se laisse séduire par un groupe d'extrême droite. Bonjour Muriel et Delphine Coulin.
Bonjour.
Vous réalisez ce film, votre quatrième long métrage, à quatre mains. Jouer avec le feu, sélectionné à la dernière Mostra de Venise, a permis à Vincent Lindon de remporter un prix d'interprétation. Dans cette émission, nous parlerons également, et c'est fort à propos, d'une série M, l'enfant du siècle, sur Mussolini, qui fait polémique en Italie, de Bertrand Blier, grand nom du cinéma français disparu cette semaine, et du précurseur méconnu du cinéma africain, Paulin Soumanou Viera.
On peut démarrer.
Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin.
Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein?
J'accompagnais des potes.
C'est bien commencé, hein. Il y a des ténures. Il y retourne la tête des gosses.
Ça ne gêne pas que d'en faire ça là-dedans?
Quoi qu'il y a des potes ultra?
Non, non, c'est pas seulement des ultras, non.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait.
Pousse.
Un extrait de la bande-annonce de Jouer avec le feu. Comment réagir quand on a un fils d'une petite vingtaine d'années qui glisse doucement mais sûrement dans la radicalité, en l'occurrence l'ultra-droite, l'extrême-droite. Muriel et Delphine Coulin, vous vouliez regarder en face cette réalité qui fait les gros titres des journaux depuis une dizaine d'années, mais on a l'impression d'une irrésistible montée de l'extrême-droite. Il n'y a pas eu beaucoup de films. Il y a eu beaucoup de films sur la radicalité, l'extrémisme islamiste. Il y en a peu sur l'extrême droite.
Oui, c'est vrai qu'il y en a peu. Mais quand il y en a eu, c'était plutôt des films comme par exemple American History X ou Un Français, et qui prenaient le point de vue et le long cheminement d'un type justement qui s'engageait dans l'extrême droite. Nous, là, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on le fait via la famille, c'est-à-dire c'est dans le regard d'un père. Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu toujours des valeurs humanistes, un esprit ouvert, quand tout d'un coup, son propre fils, qu'on aime par-dessus tout, se met à avoir des idées xénophobes et pas du tout à l'aune de ce que lui a enseigné son père.
On travaille comme ça. Alors, je sais que vous adaptez un roman de Laurent Petit-Mangin, mais est-ce qu'on travaille sur ses peurs, ses propres peurs?
Oui, c'est ça. C'est aussi dans cette mesure-là qu'on préférait prendre cette histoire par le point de vue du père. C'est que c'est beaucoup plus proche de nous, finalement. Moi, je n'ai jamais été tentée par l'extrême droite. En revanche, je suis affolée par le fait que ces idées-là gagnent du terrain un peu partout, y compris dans des gens qu'on côtoie, des voisins, des amis plus ou moins proches. De toute façon, vu les scores des partis d'extrême droite, les gens sont de plus en plus nombreux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça si on n'adhère pas à ces valeurs-là? Est-ce qu'on se met en colère? Est-ce que on méprise? Est-ce que on s'enferme dans un silence en se disant de toute façon on se comprendra jamais? C'est exactement ce qui arrive au père et c'est ce qui nous arrive à nous tous les jours.
C'est la question du langage commun, en fait, que pose votre film.
Oui, c'est ça. Et en l'occurrence...
Est-ce qu'il existe?
C'est ça, en l'occurrence, puisqu'on est à l'intérieur d'une famille qui est censée... Alors évidemment, toutes les familles ne sont pas des endroits de paix, des endroits paisibles, mais c'est vrai qu'a priori, c'est des endroits où on s'aime et où on arrive à se parler. En tout cas, c'est ce que la légende dit. Et là, comme c'est une famille de trois, un père et deux fils, qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un qui devient un électron libre? Et est-ce qu'on peut continuer à reconnaître les siens quand ils adhèrent à des valeurs qui sont diamétralement opposées aux nôtres?
Votre film Delphine et Muriel Coulin entre en résonance avec la marche du monde. On le disait, bon, déjà, la France, c'est évident, mais aussi un peu partout dans le monde, l'irrésistible ascension des courants populistes, réactionnaires ou d'extrême droite. En Italie, une série diffusée actuellement tous les jeudis fait polémique après avoir été montrée, bah justement, comme votre film, en sélection à la dernière Mostra de Venise. Il s'agit de M, l'enfant du siècle, adapté du best-seller du romancier Antonio Scurati. Réalisée par le Britannique Joe Wright, elle raconte la montée en puissance, il y a donc un siècle, de Benito Mussolini et la naissance du fascisme. Cette série en 8 épisodes est diffusée sur la chaîne Sky Italia. Anne Lenir, vous êtes notre correspondante à Rome. Alors tout d'abord, qu'apporte cette série de nouveau sur l'histoire de Benito Mussolini ?
À un moment où l'extrême droite gagne du terrain un peu partout, notamment en Italie, dirigée par Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d'Italia est un héritier de l'ex-mouvement social italien, fondé par des partisans de Mussolini en 1946, M, l'enfant du siècle, se démarque des autres œuvres sur le dictateur, surtout par la mise en scène qui plonge littéralement le spectateur dans un univers noir. Entre la fondation des fascis, les faisceaux de combat, en 1919 et le discours du Duce au Parlement le 3 janvier 1925, 6 mois après l'assassinat par une escouade fasciste de son principal opposant, le député socialiste Giacomo Matteotti. L'acteur Luca Marinelli, dans le rôle de Mussolini, interprète magistralement ce discours, tant au niveau du ton populiste que de la gestuelle belliciste, torse bombé, menton en avant. Et ça donne des frissons. Par exemple, quand il répète la déclaration suivante. « Si le fascisme a été une association de criminels, je suis le chef de cette association de criminels. »
Cela dit, Anne aime l'enfant du siècle, donc la série suscite autant de critiques acerbes que de propos élogieux.
Oui, et les désapprobations proviennent aussi bien des médias de gauche que de droite. D'après le journal Il Fatto Quotidiano, résolument contre le gouvernement Meloni, la série est techniquement impeccable en termes de scénographie, mais c'est une caricature grotesque de Mussolini, alors que ce personnage, qui inspira Hitler, était sérieux et tragique. Le quotidien Libero, ancré dans la droite radicale, estime que les 8 épisodes sont farcis de stéréotypes et saupoudrés d'une pincée de philosophie grossière. Et selon l'historien Giordano Bruno Guerri, la série aurait été plus crédible en reconnaissant qu'en 20 ans de pouvoir absolu, le fascisme a sans doute fait aussi de bonnes choses. A l'inverse, pour l'hebdomadaire catholique Familia Christiana, M, l'enfant du siècle, ne s'écarte pas de la réalité brutale et transmet clairement ce message. Le fascisme qui se cache tel un virus dans les replis du temps peut toujours revenir. La Repubblica, orientée à gauche, parle d'une fresque grandiose, capable de surprendre et terrifier le spectateur grâce à la force extraordinaire de Luca Marinelli dans la peau de Mussolini.
Voilà, hein, M, l'enfant du siècle, donc actuellement diffusé en Italie. On n'a pas encore les dates ni la plateforme qui la diffusera en France. Muriel et Delphine Coulin, j'imagine que vous en avez entendu parler de cette série.
Non. Ben moi non.
Moi non plus.
Non plus. Et du livre, non.
Non plus.
Non plus.
Non. C'est vrai que le film, il a un peu voyagé là, dans les festivals à partir de la Mostra et que partout, ça résonnait en fait.
Et pour en revenir à l'Italie, ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a eu le prix de la jeunesse. Et dans l'Italie d'aujourd'hui, de Giorgia Meloni, on a eu à cette occasion la remise du prix, un jeune étudiant qui a fait un discours, mais exceptionnel, nous disant, nous, on n'est pas le cinéma ni la jeunesse de demain, on est la jeunesse d'aujourd'hui. On se bat avec nos moyens. La remise de ce prix, c'est parce qu'on y croit, on se reconnaît là-dedans et on est là, nous aussi, comptez sur nous. Et c'était hyper émouvant de recevoir ce prix de la part des jeunes.
Oui, et c'est vrai que du coup, parce que je parle d'inquiétude, mais il y a aussi quand même de l'espoir, on espère, et on voit quand même, y compris dans notre pays en juillet dernier, que ceux qui sont contre ces idées...
Il y a toujours un sursaut démocratique.
Voilà, heureusement, il y a encore une majorité de gens qui ne sont pas racistes, par exemple.
Là, vous parliez du front républicain lors des dernières élections législatives.
Exactement.
Consécutives à la dissolution en France. La montée des extrêmes et des périls, on continue à en parler avec vous, Muriel et Delphine Coulin, juste après le choix musical de notre réalisatrice Apolline Verlon, c'est le titre Fly to Selling, Tricky et Rosa Rocasera. Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Delphine et Muriel Coulin pour parler de leur nouveau long métrage « Jouer avec le feu ». Voilà, on est au stade de foot hein, dans cet extrait de Jouer avec le feu. Ça commence bien, hein, cette sorte de moment de communion entre le père Vincent Lindon et ses deux fils, Benjamin Voisin, Stéphane Crépon. Mais le moment vire un peu allègre parce que là, à ce moment-là du match de foot, le père Vincent Lindon veut changer de place. Quand il se rend compte que son fils aîné, retrouve des copains, un crâne rasé, des marches patibulaires de militants d'extrême droite. Donc même, ou alors surtout, je ne sais pas, dans une arène de foot, qui était un peu le dernier moment de communion collective, c'est là que peuvent s'exacerber les tensions et les violences. C'était important de choisir ce sport collectif en
c'était
particulier.
C'était important de choisir ce sport parce qu'il y a quand même, on s'est rendu compte que c'est un milieu qui est très très masculin, ces milieux un peu extrêmes là. Et il y a le foot, il y a le MMA. Et c'est vrai que la place des femmes, nous quand on était en repérage, on se faisait repérer tout de suite parce qu'il n'y a quasiment pas de femmes. Et donc du coup ça, c'était important pour nous de choisir aussi un milieu très masculin. Et puis c'est surtout là où on vient le chercher, le jeune, alors qu'il pourrait retourner dans le giron de son père et revenir à la raison. En fait, à nouveau, il est sollicité par ces types pas bien et à nouveau, il va partir avec eux.
Oui, et puis c'est dans le collectif, on voit bien ce qu'il y a de positif parfois et comment le revers de la médaille, ça peut être que le groupe amène aussi à des comportements de débordement qui amènent à la violence. Enfin, on sait combien un groupe, ça peut être très vertueux comme très mal.
Parce que effectivement, c'est donc un trio exclusivement masculin que vous filmez, et deux frères qui ont eu la... Enfin, c'est toujours troublant, hein, même si là, je vais enfoncer sans doute une porte ouverte, surtout face à vous, qui êtes deux sœurs, mais manifestement unies déjà par le cinéma. Mais comment deux frères élevés de la même façon, qui ont connu les mêmes choses, sont aussi dissemblables. L'aîné, donc Benjamin Voisin, il va décrocher de sa formation qui l'emmènerait pour être métallurgiste. Et son cadet, lui, brillant élève. Alors, je ne sais pas, à travers ces deux figures, vous montrez comme ça une fracture, aussi une fracture française.
C'est vrai que c'est toujours une énigme, quand on a deux enfants, de voir comment ils peuvent se ressembler et comment ils peuvent être aussi dissemblants. Là, il se trouve qu'il y a eu un drame, puisque la mère a disparu. Et nous, ce qu'on se dit à la lecture du livre de Laurent Petit-Mangin, c'est que l'aîné a plus souffert de la perte de sa mère. Et en plus, il était plus grand, donc ça a créé une fracture pour lui dans son histoire. Il a décroché scolairement. Il a perdu un peu de sens à sa vie. Je pense qu'on morfle plus quand on est adolescent que quand on est enfant, sans doute. Et le petit, lui, a été préservé, mais aussi par son grand frère. Et donc, on a cherché à ce que ce soit pas manichéen. C'est-à-dire, chacun des trois personnages, y compris le facho, on n'a pas voulu les faire 100% blancs ou 100% noirs. Il n'y a pas de vrai méchant. Il y a juste trois personnages qui essayent de zébrouiller avec leur vie et qui ont des côtés très positifs et des côtés très négatifs. Évidemment, le fils aîné quand même est l'antagoniste dans l'histoire, mais et il est beaucoup plus mauvais que les autres, en tout cas dans ses comportements. Mais le père n'est pas exempt de culpabilité dans cette histoire. Le fils cadet non plus. Ils font pas tout ce qui devrait être fait et ils abandonnent un peu ce grand-fils qui part à la dérive.
Et là, vous vous êtes plongées toutes les deux pour l'écriture du scénario, alors même si vous aviez le support du roman de Petit Mangin, mais dans un environnement uniquement masculin.
Oui,
c'est
ça, c'est très
changement
frappant
pour vous.
Oui,
vous êtes mise dans la tête de trois hommes.
Oui, et c'est vrai que c'est très frappant de voir à quel point c'est masculin, voire masculiniste. Et on le voit de plus en plus. Enfin, Trump, quand il monte sur scène au moment où il est élu, la première personne qui fait monter avec lui à la tribune, c'est le président de la fédération de MMA. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui font du MMA ou du free fight sont des fachos, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des vraies connivences entre ces milieux-là, que les valeurs premières, c'est à tous les coups la virilité, la force, voire la violence. Et que ça, c'est quand même très troublant. Je ne veux pas faire de raccourcis ni en tirer des conclusions, parce que j'en ai pas. Mais c'est vrai que nous, tout au long de l'enquête, on se disait, mais enfin, c'est quand même fou qu'il y ait très peu de femmes. Comment ça se fait, au fond ?
Et pour contrebalancer ça, du coup, comme quand même nos deux premiers films étaient vraiment féminins, voire féministes, on s'est dit, les personnages secondaires qu'il y avait dans le bouquin de Laurent Petit-Mangin, on s'est dit, ceux qui étaient des personnages de savoir ou de pouvoir, comme le doyen de l'université, ou l'avocat, ou le médecin, on allait en faire des personnages féminins pour que ce soit des femmes qui apportent quelque chose de positif dans le film. Et c'était notre petite touche à nous pour se dire tout n'est pas perdu.
Oui, c'était politique de transformer ces personnages-là en personnages féminins.
Et vous avez fait aussi un choix, alors je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez constaté lors de vos repérages, mais il y a une sorte de salle, alors je ne sais pas si c'est une salle clandestine, mais enfin où se trouvent les combats de MMA, dans une ancienne usine, ce qui est évidemment symboliquement très fort, hein, dans puisque vous avez filmé, je crois, en Lorraine, dans cette zone désindustrialisée. C'est assez frappant comme décor.
Oui, c'était une scène qui n'existait pas vraiment dans le livre d'ailleurs. C'était juste à un moment, il y avait une ligne sur le free fight et du coup on a enquêté là-dessus. On s'est retrouvé dans un univers incroyable et évidemment très cinématographique. Et quand on a vu que c'était très souvent les combats clandestins de MMA étaient organisés dans des friches industrielles, c'était pain béni pour nous parce que ce type de décor. Là, en l'occurrence, c'est une centrale électrique qui a fermé, qui est gigantesque, rouillée. Dès la première image, ça a du sens. En fait, il y a toute une histoire d'une région ou d'un pays qui peut passer en quelques secondes à l'image.
Et puis, là, du coup, j'enfonce un peu le clou de vos choix de mise en scène et de choix de décor. Là, on parlait de l'usine désaffectée qui sert donc pour ces combats clandestins. La maison qu'habitent ces trois personnages, le père et ceux du fils, elle aussi, vous en faites un choix de mise en scène avec un escalier central, avec les deux chambres contiguës des deux frangins, mais séparés par une cloison, comme eux-mêmes sont séparés.
La mise en scène, on considère souvent que c'est comme l'architecture, et là, en l'occurrence, c'est important parce que la maison, elle est le socle de tout ce qu'on va mettre en scène plus tard dans les relations familiales. Et donc, du coup, effectivement, les scènes d'affrontement avec un escalier central dans la maison, ça nous sert à montrer toute cette dialectique qui va se passer entre, parfois, c'est le père qui prend le dessus, qui est au-dessus, parfois, c'est le fils qui monte de plus en plus haut par rapport à son père. Et puis, il y a aussi, effectivement, ces deux chambres contiguës. Les fils ont été élevés de la même manière, comme on le montrait visuellement. Ben, ils ont la même chambre, au même étage. D'abord, ils sont côte à côte, puis ils sont face à face. Donc, tout ça, avec Delphine, on le fait très précisément en prépa, avec le chef d'éco Yves Fournier. On met en place la structure. Et ensuite, quand tout est prêt, qu'on a bien nos principes de mise en scène, etc., là interviennent les acteurs. Mais quand ils arrivent au jour J, ils ont déjà leur chambre, leur cuisine, leur place à la maison, leur chaise. Et donc, c'est ça aussi la direction d'acteurs, c'est leur donner les éléments qui vont faire qu'ils vont pouvoir s'épanouir et jouer au meilleur.
En fait, on prévoit d'abord notre mise en scène et ensuite, on va chercher le décor qui va pouvoir y correspondre. C'est-à-dire que là, en l'occurrence pour la maison, on s'était dit que les scènes de dispute, par exemple, auraient lieu dans un escalier. On s'était dit qu'il y avait une grande fenêtre de la cuisine qui était comme un poste d'observation pour le père vers l'extérieur. Effectivement, les deux chambres étaient contiguës dans le scénario et on avait prévu nos plans. Avant de trouver la maison, d'ailleurs du coup c'est super compliqué, c'est comme quand vous devez chercher un cadeau très très précis, c'est toujours difficile, là c'est pareil. On avait tellement de critères pour cette maison qu'elle était impossible à trouver, et puis finalement on en a trouvé une qui correspondait à peu près dans les espaces, et après on a tout refait du sol au plafond, c'était probablement le poste budgétaire du film le plus cher, parce que on a refait toutes les couleurs, on a créé des cloisons, on a transformé une salle de jeu en chambre, pour que tout ça corresponde, toute la déco pour qu'on sente l'absence de la mère de cette maison, mais qu'on voit qu'il y a des éléments qui peuvent rappeler sa présence. Enfin, la table de la cuisine, elle était fondamentale. Enfin, tout était prévu.
Vous n'avez pas eu la tentation du studio, du coup ?
Non, c'est quand même pas pareil. Moi, j'aime pas trop, en fait, en studio. C'est un peu... Il y a quand même une artificialité, malgré tout.
Viens ici quand je te parle!
Mais fais-moi confiance, pas! C'est pas ce que tu crois!
Je crois rien, moi, je constate. Je crois rien.
Bah, c'est ça, tu vois le problème. Tu crois en rien. Toby, tu fais comme tout le monde.
Je fais peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes.
Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi
mais
et moi!
Non, ils sont pas racistes! Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes!
Non, mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème tant qu'ils restent calmes. D'accord? Mes potes à moi, ils sont comme nous. Ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux.
Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres?
Ouais.
Moi, je trouve qu'ils sont sales. Ce qu'ils écrivent, c'est sale! Ils occultent tout ce qui bouge. Ils sont vulgaires en plus. Ils sont prêts à se battre contre tous ceux qui pensent pas comme eux. Même ceux d'une autre équipe. Ils sont sales, tes copains.
Écoute, je dis ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Je vois qui je veux.
Non,
je
suis pas en prison, là.
Soumets-toi, tu dis pas ce que tu veux. Eh ben, enferme-moi. Enferme-moi, comme ça, je verrai plus personne.
Mais c'est une idée, oui. Ça t'évitera de traîner des fachos.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfois.
Voilà, on parlait de dispute, en voilà une belle Delphine Coulin. Et on se rend compte voilà, que les imprécations du père et les jugements moraux, ben, ça ne marche pas.
Et on se rend compte aussi à quel point Benjamin Voisin, qui est quand même plus jeune dans sa carrière que Vincent Lindon, renvoie bien la balle et a égale puissance avec lui. C'est quand même, même là, en n'ayant pas les images, ça frappe.
Et ce qui frappe aussi, c'est le calme, une forme de calme dans sa voix, alors que Vincent Lindon, le père, donc, est beaucoup plus excité, beaucoup plus... Hors gong, quoi, hors de lui.
Oui, oui. Alors, on a tourné un peu autour des différentes émotions sur le plateau. On a fait différentes versions. Mais c'est vrai que ce personnage n'est jamais aussi menaçant que quand il garde son calme face à son père, en fait. Parce qu'on sent qu'au début, c'est quand même assez clair que le père a le dessus. Et puis, petit à petit, au fil des disputes, on s'aperçoit que le fils ne craint plus du tout le père et au contraire, même l'agresse.
Comment on travaille une scène pareille ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lectures avant, des lectures plates, et puis après, on...
Non, il y a zéro lecture. Non. C'est d'abord parce qu'ils le souhaitaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire que là, c'est tellement instinctif que si on répète trop, moi j'aurais peur que ce soit éventé, ce soit trop mécanique. Là, ils se jettent dans l'arène et c'est ça qui est super avec ces trois acteurs, c'est qu'ils se jettent vraiment dans l'arène. Et souvent, la première prise était vraiment excellente. Après, c'est des réglages qu'on fait ensemble. Un peu plus de ci, un peu moins de ça. Attention, la position face à la caméra, enfin, ce genre de trucs. En tous les cas, pour ces trois acteurs-là, ils sont pas tous pareils. C'est beaucoup d'instinct.
Il y a beaucoup de silence hein, dans cette famille. Là, on vient d'entendre une scène, une scène de dispute, mais sinon, il y a beaucoup de silence dans cette famille. Et vous le disiez, hein, l'absence de la mère décédée pèse des tonnes. On a le sentiment aussi que le père, donc Vincent Lindon, qui est cheminot, qui travaille sur les conteneurs, enfin caténériste, lui, il a pas les mots, non? Est-ce qu'il n'a pas les mots ?
Bah de moins en moins, en tout cas. C'est vrai qu'au début, il y a un silence où ils sont bien ensemble. C'est un silence de confort, de satisfaction. Et puis, au fur et à mesure, c'est un silence de haine, presque. Quand ils sont tous les deux devant la télé et qu'ils regardent le même programme et qu'on sent que le silence est de plus en plus lourd, c'est que le père, il a de moins en moins les mots. Il ne trouve pas la solution face à son fils.
Oui, et puis souvent, le silence permet une tension plus grande, paradoxalement, que les scènes de dispute. Enfin, il y a des scènes, on a cherché à ce que la tension dramatique soit de plus en plus forte à l'intérieur du film, et ça, pour ça, le silence, il n'y a pas mieux.
Et vous glissez des... Alors, je ne sais pas si c'était des clins d'œil comme ça, un peu subliminaux, mais notamment via la musique. Je pense à une scène au tout début où Vincent Lindon, enfin, donc le père est allé chercher son fils qui joue au foot et ils sont en voiture.
D'où je baisse ? Je veux dire oui.
À la radio, c'est Patti Smith qui est diffusé. Patti Smith, grande icône.
People have the power, surtout. Voilà. Oui, mais oui, bien sûr, tous nos choix musicaux, ils sont pesés. En plus, il se trouve qu'on l'a rencontré à l'occasion de notre précédent film sur Charlotte Salomon.
Patti Smith ?
Oui, avec Vicky Cripps. Vicky Cripps nous dit « Je peux venir avec une copine ?»
Et dans la projection.
Dans la queue les gens qui faisaient la queue au Lincoln Center, arrive la copine en question qui s'appelait Patti Smith. Et donc, c'est aussi un petit clin d'œil comme ça. C'est quelqu'un, évidemment, qu'on adore. Et puis,
qui nous a fait
paroles,
l'amitié
d'accepter
mais qui est donc assez vite zappé.
Oui, par le fils.
Par le fils qui ne veut pas tant que ça que le peuple ait le pouvoir, puisque c'est « people have the power ».
Alors, vous parliez des acteurs, effectivement, les trois, hein, Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stéphane Crépon, sont formidables. Vous avez donc dû composer une famille. Je crois qu'à l'origine, vous avez écrit pour Vincent Lindon, donc vous saviez déjà que lui jouerait le père, mais il a fallu trouver ses deux fils. Et au départ, vous cherchiez des vrais frères, c'est vrai ?
Oui, on a vu des dizaines de vrais frères, parce qu'on se disait que, peut-être parce qu'on est sœurs, que les gestes entre eux seraient plus faciles à trouver dès le début, si c'était des vrais frères, et qu'on jouerait sur les ressemblances et tout ça. Et puis en fait, on a appris que Benjamin Voisin et Stéphane Crépon étaient très amis et qu'ils avaient même vécu en colocation à un moment pendant 5 ans, donc un long moment quand même. Et là, on s'est dit, bah, ça vaut peut-être la peine qu'on les voit. Et c'est vrai que dès la première image, on s'est dit au casting... Parce qu'on était présentes, mais on les filme évidemment. On s'est dit bon bah c'est eux, c'est sûr. Il y avait une complicité, un plaisir à jouer ensemble. Puis même ils avaient Benjamin Voisin a cette force qu'on cherchait pour Fousse et Stéphane Crépon a cette retenue qu'on cherchait pour Louis. Donc ils avaient en plus quand même des ressemblances avec leurs personnages. Et après finalement on s'est rendu compte qu'on peut faire en sorte que deux personnes se ressemblent à l'écran si on le désire.
Et puis Vincent Lindon, donc très crédible comme père, évidemment. J'ai rencontré Vincent Lindon et il m'a dit qu'il avait materné les deux jeunes acteurs sur le tournage.
Elles ont filmé trois hommes qui se débattent comme ils peuvent, qui n'ont pas le mode d'emploi pour se parler. Donc c'est un film qui est et politique et social, mais très familial aussi, et un film d'amour. Le film ne donne pas d'ordre, le film ne dit pas aux spectateurs « ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser comme ça, il ne faut pas penser comme ça », non. Il présente un état des lieux d'une famille en crise, mais qui s'aime beaucoup, avec des moments de rire, les moments où on danse, le rock, les moments où on va au foot, il y a plein de moments. Et c'est ça qui est complexe et qui est bien, c'est que ce n'est pas manichéen, c'est une famille avec des jours qui ne ressemblent pas à la veille. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, notamment, et aussi de jouer avec deux personnes qui sont de la jeune génération et qui m'ont emmené, que je le veuille ou non, vers un peu d'insouciance, un peu de déconcentration. Et à force de m'occuper d'eux, parce que je me suis beaucoup inquiété pour eux, alors qu'ils n'avaient pas besoin de moi du tout, mais moi je me suis raconté quand même que j'ai confondu. J'ai confondu mon rôle de papa dans le film, avec mon rôle de paternel d'acteur avec des jeunes comédiens. Et donc, je les ai énormément maternés, couvés. Et en fait, quand on s'occupe de l'autre, bah, finalement, quand on entend moteur, on s'aperçoit qu'on a oublié de s'occuper de soi. Et donc, on plonge. C'est comme quand on plonge dans la mer sans se mettre de l'eau derrière la nuque. On y va d'un coup.
Voilà, bon, ça lui a réussi à Vincent Lindon hein, de plonger dans la mer sans se mettre de l'eau. Puisqu'il
a ramené la coupe Volpi.
Voilà, le prix d'interprétation. Et alors, les deux jeunes acteurs l'ont déconcentré ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on est jeune acteur et qu'on fait face à Vincent Lindon, il y a quand même une petite appréhension au tout début. Et que là, le fait qu'ils se connaissent et qu'ils se tiennent les coudes et qu'ils ne soient pas du tout rivaux l'un envers l'autre, ce qui aurait pu être le cas aussi chez les jeunes acteurs, eh bien... ça faisait que d'emblée, Vincent, soit il y allait, soit il se retrouvait face aux deux. Mais ils étaient vraiment très forts face à lui. Et du coup, il a été intelligent, puis je pense que c'était par plaisir aussi. Ils se sont retrouvés tous les trois comme larrons en foire. On ne pouvait plus les arrêter. Après le tournage, ils continuaient la troisième mi-temps. Et ça, c'est vrai que c'était très chouette à voir.
Et là, je vous propose le contrepoint, donc vu... par les deux jeunes acteurs, Benjamin Voisin, Stéphane Crépon.
C'est vrai qu'on s'est laissé surprendre, nous déjà, par plein de choses qu'ils faisaient. Et lui-même, il y a eu deux, trois moments où je pense qu'il s'est laissé surprendre. Parce que dans leur méthode de travail aussi, à Muriel et Delphine, il y a quelque chose où elles nous ont laissé la place, toutes les deux, pour montrer justement cette intimité qu'on a, Benjamin et moi, cette complicité. Donc il y avait des moments où juste elles allumaient la caméra. Ils disaient, bah maintenant, faites comme vous étiez, quoi. Faites-nous les moments dans votre colloque. Là, vous avez quartier libre pendant les deux prochaines minutes, et après, la scène démarre. Et donc, lui arrivait parfois dans des scènes où nous, on était complètement en roue libre, et ça, je pense que du coup, ça a dû le déstabiliser un peu de fait, mais c'est juste du fait du dispositif, quoi. Nous, on n'a jamais cherché à le déstabiliser volontairement.
Donc, c'était pas tant de l'improvisation dans une scène.
Il n'y a aucune improvisation dans le film. Il y a peut-être deux, trois ajouts pour rentrer en scène, mais sinon, il n'y a aucune. Non. La seule improvisation, vraiment, elle se fait dans les silences, dans les regards. C'est ce qu'il y a, je trouve, moi, à mon sens, le plus beau dans le film. C'est ce qu'on peut voir dans une famille qui a du mal à se parler, où les non-dits ont pris le dessus. Où ça prend évidemment du temps d'aller voir quelqu'un. Mais ça vaut le coup.
Delphine et Muriel, vous voyez acquiescer parce que voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se travaille, les regards.
Ah si, bah, forcément, c'est quand même...
C'est des indications de mise en scène.
Le centre même d'un acteur quand même. Son regard et sa voix, là, j'écoutais, j'adore leurs trois voix. je m'en repaissais. Et c'est vrai que oui, c'est exactement ce que dit Benjamin. Je pense qu'on est très à cheval sur le texte qu'on a écrit. On prévoit vraiment en amont notre mise en scène par le menu. Mais en même temps, ce qui est super, c'est que le fait qu'on soit très préparé fait qu'une fois sur le plateau, le peu de temps libre qu'on arrive, ou le peu de temps un peu disponible qu'on arrive à dégager, on l'offre aux acteurs et on essaye d'être uniquement avec eux à partir de ce moment-là. Et ça permet de trouver des nouvelles idées, d'avoir un peu plus d'attention pour eux, de leur permettre de proposer plusieurs versions, de discuter avec eux. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre.
Et alors, comment, enfin, c'est toujours une question qu'on pose quand il y a un tandem de réalisateurs et a fortiori de frères. Il y a beaucoup de frères, il y a très peu de sœurs. À ma connaissance, je crois que vous êtes les seuls. Enfin, il y a les sœurs Wachowski aussi.
Exactement.
Muriel et Delphine Coulin, comment vous partagez? Est-ce qu'il y a un partage du travail, à savoir, enfin, je dis n'importe quoi, l'une qui est plus direction d'acteur et l'autre plus technique, ou tout est fait ensemble
en... Tout est fait ensemble en prépa. C'est-à-dire, on prévoit beaucoup, beaucoup de choses. Après, globalement, non, c'est quand même très équitable, même si Delphine va quand même plus parler aux acteurs. Et moi, peut-être davantage à la caméra. Mais en tous les cas, on a toujours un regard sur ce que fait l'autre à chaque moment, ça c'est sûr.
Il peut y avoir des différences d'interprétation
Très rare. Ouais, très rare, franchement. Très rare. On a quand même beaucoup de goûts en commun, beaucoup de références communes. Je croyais que tu allais dire, on a beaucoup de goûts tout court. Il y a beaucoup de choses qu'on pense pareil, mais même parfois, on peut avoir une idée visuelle en tête et on voit l'autre prendre la caméra et la faire. Donc il y a quand même une même direction de regard, en fait.
Il y a une question que je ne vous ai pas encore posée, mais c'est peut-être un peu la question piège. On parlait tout à l'heure de la série M et de l'ambition, voilà, montrer aux spectateurs d'aujourd'hui ce qu'a été le fascisme pour peut-être prévenir. Est-ce que vous avez une ambition avec ce film, sans tirer la sonnette d'alarme, mais c'est quoi, prévenir un peu, montrer ce qui est justement des situations dont inextricables, on peut agir différemment?
Moi, j'aime les films qui me font ressentir des choses et penser. Et si notre film peut créer de l'émotion d'une part et d'autre part créer une bulle d'espace où on peut exercer son esprit critique, alors c'est gagné parce qu'on a de moins en moins d'espace pour exercer cette pensée critique. Et c'est peut-être ça qui fait que l'extrême droite gagne du terrain.
Merci beaucoup Delphine et Muriel Coulin. Jouez avec le feu, c'est le titre de votre nouveau long métrage en salle depuis mercredi. Bertrand Blier et Paulin Soumanou Viera à l'affiche de tous les cinémas du monde. C'est juste après Faux Paradis, Soprano et PLK, un titre de la playlist de RFI.
Au début tout est beau, tout est parfait, puis tout est flou, tout est faux, tout est à refaire. J'ai perdu trop de temps, trop de papels pour ne gagner que des vues quand je t'appelle. Quand je donne c'est sincère, je n'attends pas de retour d'ascenseur, hey, mais bien sûr que ça saigne, qu'à des gars sûrs n'attendent que ta SACEM, hey, trop naïf pour le remarquer, je vois le bien partout, je t'avoue des fois que je suis largué, ouais, faut que je sois dur comme au bout tout, hey, à chaque fois que j'ai morflé, c'était à cause de tes mots doux, à toutes tes caresses, au sens du poil, tes promesses, à tes techniques vaudou, hey, t'as fini par m'envoûter, par m'ensorceler, j'avais ton nom, ton visage dans mon cervelet, tu savais comment contrôler, manipuler mon petit cœur qui ne savait que pardonner, beaucoup trop vrai pour ne pas être touché par ces relations. Au visage retouché, ouais, je me suis reconstruit. Après des années, j'ai compris. Je me suis trompé de paradis. Je ne savais plus comment faire, comment sortir de cet enfer. Ouais, je me suis trompé de paradis. La tête et le cœur en guerre, et ma dignité mise sous terre.
Pas tous les jours la fiesta, y'a même des jours les nuages pleurent, le soleil part, je suis énervé tout seul, je prends trop les trucs à cœur. Si je t'ai dit oui, c'est que c'est oui, ego, pas besoin de relancer. Je préfère être seul dans mes soucis, je me tête, façon de sais comment c'est. Gros, dans mon cœur il fait mon sac. Comme une envie de faire mon sac, mais je fais que draper sur le boom tchac, 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 tchac. Chaque choix que tu fais réfléchis bien. Le diable chuchote que vas-y viens. Rien de fou, faut rester basique. Sur VT ASICS, je suis bien parmi les miens. Ça fait longtemps que ça dure dur. Maintenant je sens bon pour une ordure. Je reste avec ceux qui m'ont connu à terre. Y'a du monde derrière, moi je suis l'aventure. Toi, ils dégoûtent tes poteaux. Ils te lâchent des tas de trois soucis. T'es dans mon dos, y'a des coups d'eau. Mais quand je regarde mes poches, j'ai le sourire.
Je me suis trompé de paradis. Je ne savais plus comment faire, comment sortir de cet enfer. Ouais, je me suis trompé de paradis.
Je me suis trompé de paradis.
La tête et le cœur en guerre, et ma dignité mise sous terre. Je veux partir de là. S.O.S.O.S.O.S. S.O.S.O.S.O.S. Partir de là-bas. S.O.S.O.S.O.S. S.O.S.O.S.O.S.
Je veux ni merci ni pardon. Elle obscurcit ma pardon. Je regarde la vie du balcon comme si j'étais au ballon.
C'est le moment de l'actualité du cinéma de la semaine. Après David Lynch, un autre grand réalisateur vient de tirer sa révérence.
C'est ça que j'aime au cinéma, j'aime bien être surpris, moi. Je crois que les spectateurs aussi, ils aiment bien être surpris. Mais le premier qui doit être surpris, c'est l'auteur. Il faut que moi, quand je suis devant mon papier, je me fasse peur.
Il aimait bien être surpris et surprendre aussi Bertrand Blier, interrogé en 1996 sur RFI par Catherine Ruel. Et peut-être plus que surprendre, il aimait provoquer. Fils du grand acteur Bernard Blier, cet anticonformiste aura marqué le cinéma français des années 1970-80, se démarquant de ses contemporains de la Nouvelle Vague par son humour noir et cynique, ainsi que par son grand sens des dialogues, lui qui écrivait la plupart de ses films. C'est avec son deuxième long-métrage de fiction, Les Valseuses, adaptation d'ailleurs de son roman éponyme, qu'il se fait un prénom. Sorti en salle en 1974, immense succès public, Les Valseuses met en scène des marginaux en cavale et en quête de libération sexuelle dans la France conservatrice.
« Ne fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Ils ne peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. »
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où, jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Frappé d'une interdiction aux mineurs, le film attire plus de 3 millions de spectateurs en salle en 1974 et impose de nouveaux visages. Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Bertrand Blier révèle de futurs monstres sacrés ou bien il utilise les acteurs à contre-emploi. C'est le cas avec Michel Blanc, qu'il dirige dans Tenue de soirée en 1986, dans le rôle d'un travesti amoureux de Gérard Depardieu. Ou encore, deux ans plus tard, Carole Bouquet pour Trop belle pour toi. Immense succès là encore, même si la grossièreté des dialogues et la crudité des séquences font scandale. Les dialogues, c'était l'une des marques de fabrique de ce réalisateur subversif, comme l'explique notre confrère Laurent Delmas à Edmond Sadaka.
Il y a un côté, on va dire, rablisien, si on voulait rester en littérature. C'est un vrai écrivain de cinéma, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un amour de la langue, de la profusion des mots et de trouver des expressions fleuries et des dialogues avec, de toute évidence, un goût de la provocation. Donc effectivement, cet amour du dialogue, il l'a mis au service de très très grands acteurs français, plutôt des hommes, il faut bien le dire, son propre père, Depardieu, Devers, enfin Dujardin, Dupontel, on pourrait comme ça énumérer quasiment tout le cinéma français. Il avait fait d'ailleurs un film qui s'appelle Les Acteurs et qui était une façon pour lui de leur rendre hommage avec des toutes petites scénettes. Donc c'était chez lui peut-être aussi une sorte de révérence au père, hein, puisqu'il faut toujours penser qu'il était le fils de Bernard Blier, l'un des très très grands diseurs du cinéma français des années 50 et qui a fait le bonheur du parler Audiard.
Les films de Bertrand Blier sont des classiques, même si, revus à la lumière du mouvement MeToo, on peut être plus choqué par leur misogynie que par leur moralisme provocateur, Laurent Delmas.
La misogynie de Blier, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse, encore moins aujourd'hui évidemment qu'avant, mais enfin, elle était là, hein, dans Les Valseuses quand même, si on regarde le film sous cet angle-là, les femmes sont quand même maltraitées à tous les sens du terme, et y compris le pire à travers un viol. Il y a un autre film assez contestable de ce point de vue-là, c'est Calmos, que Bertrand Blier lui-même d'ailleurs a fini par, sinon récuser, du moins à dire que vraiment ce film ne lui plaisait pas et qu'il n'aurait pas dû le faire comme ça. Mais jusqu'au bout, effectivement, il y aura eu une sorte de regard assez masculin, on va dire, sur la société, des blagues un peu de misogynie de caserne ou de cours de récréation entre hommes, qui pouvaient s'apparenter d'ailleurs à la génération précédente. Pour autant, évidemment, sa filmographie ne s'efface pas, mais je pense qu'on est en droit de la relire à l'aune des évolutions actuelles. De toute évidence, une partie, et je dis bien une partie de la filmographie de Bertrand Blier doit être interrogée.
Une cérémonie en hommage à Bertrand Blier sera organisée mercredi prochain, 10h30, en l'église Saint-Roch à Paris, suivie d'une inhumation dans l'intimité au cimetière de Montmartre. Il aurait eu 100 ans le 31 janvier prochain. Paulin Soumanou Vieira était un des pionniers encore méconnus du cinéma africain. Pour honorer sa mémoire et son œuvre, de son premier court-métrage en 1955, Afrique sur scène, à son œuvre critique en passant par son unique long-métrage, En résidence surveillée, une série d'événements sont organisés toute cette année. J'ai pu rencontrer son fils, Stéphane Vieira, qui œuvre, en compagnie de ses frères et sœurs, à restaurer les films de ce précurseur, connu également pour avoir créé la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, en 1969.
Les gens ne le connaissent pas, donc c'est pour ça que je l'ai baptisé le précurseur méconnu. D'ailleurs, dans le film que je viens de réaliser, court-métrage en 3D temps réel, on dit Vieira, le précurseur innovant.
Parce que lui, dans sa jeunesse, ça n'existe pas en fait le cinéma africain. Les Africains, à l'époque des colonies françaises, n'avaient même pas le droit de toucher à la caméra, c'est ça ?
Ben, c'est ça. En fait, quand il s'est confronté à ce problème, dès qu'il est sorti de l'IDEC, parce qu'il est sorti de l'IDEC donc en 1954, il a fait son film, c'était il y a 4 ans, et Afrique sur scène en 55. Sauf que pour faire Afrique sur scène, ils avaient l'ambition d'aller au Sénégal, tourner le film. Ils n'ont pas pu tourner parce qu'à l'époque, il y avait la loi Laval qui interdisait les Africains d'aller sur leur sol pour prendre des images.
Et celui qui le pousse du coup à réaliser ces images, il y a une rencontre avec Jean Rouch, non ?
Alors oui, il y a une rencontre avec Jean Rouch, puisqu'ils sont très 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 liés, on le voit. C'est-à-dire qu'il y a deux exemples que je vais citer. Jean Rouch, à sa mort, à la mort de Paulin, c'est lui qui décide donc de rendre un hommage à Paulin, à la Cinémathèque française. Il y a Jean Rouch aussi, son directeur de thèse. Paulin, quand il a fait sa thèse de doctorat, c'est bien Jean Rouch qui s'est occupé de lui, et c'est Jean Rouch qui l'a évalué et qui l'a pu présenter sa thèse donc, de doctorat. Et un autre lien fort que les gens ne savent pas, puisque Paulin quand même il est écrivain, il est historien du cinéma africain, il est critique de cinéma africain, et dans son ouvrage qu'il a dédié à Simbène Ousmane, il explique comment Simbène a commencé ses débuts. C'est que Simbène a rencontré bien sûr Paulin, ils se connaissaient en France, ils se sont rencontrés au Sénégal, ils voulaient faire des films. Il a demandé à Paulin comment je peux faire des films, il a dit mais il faut que tu te formes. Et Paulin a appelé Jean Rouch pour que Jean Rouch lui conseille quel type d'école Simbène pouvait faire. Voilà.
Donc Paulin Soumanou Vieira, il a aussi, on parlait de ses liens avec Simbène Ousmane, il a fait émerger aussi des talents, bon. Djibril aussi, Diop Mambéty.
Ben oui, il y a Babacar Sam aussi. Ils sont plusieurs. En fait, c'est normal. En fait, je dis que c'est une histoire de génération. Simbène est de 1923. Donc, c'est pour ça qu'on l'a surnommé l'aîné des anciens. Donc, le patriarche, la hiérarchie en Afrique est très importante. Donc, Simbène n'est pas le premier à avoir fait des films, mais Simbène est le plus ancien. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le patriarche, et c'est comme ça qu'il est devant, en tout sens. Bon, et puis après, ils n'ont pas le même tempérament, il y en a un qui est plus bruyant que l'autre, donc Paulin étant plus discret, c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle moins de Paulin, mais Paulin, effectivement, est le mentor de Simbène Ousmane, de Djibril Diop Mambéty, et d'Ababacar Sam, et d'autres.
Et pour en savoir plus sur ce centenaire, Paulin Soumanou Vieira, une adresse internet, psv-film, film au pluriel, .fr. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Apolline Verlon.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale consacrée à l'école au cinéma, avec les documentaristes Claire Simon et Hélène Milano. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.